Vous écoutez France Culture.
Les hommes, ils aiment les femmes à hommes. Les femmes, elles aiment les hommes à femmes.
Si tu veux savoir pourquoi je ne t'aime plus, faudrait qu'elle me prenne au mot, la fille que j'aime. De futiles fièvres. Amour, toujours. Amour, toujours. Amour, toujours.
France Culture se fait l'écho du forum Le Monde, Le Mans, qui s'est tenu au Mans les 16, 17 et 18 novembre dernier sur le thème Amour, toujours. Aujourd'hui, quatrième émission, Les mots de l'amour, avec Christine Angot, écrivaine, Camille Laurence, écrivaine, Michel Schneider, écrivain et psychanalyste.
Nous avons donc aujourd'hui une séance largement consacrée, vous allez voir, à la littérature. Je voudrais vous dire là, à l'instant, au moment de donner la parole à Christine Angot, que le fait de l'avoir invitée correspond à la fois à une forme de ce qui se fait classiquement au forum, c'est-à-dire qu'elle est totalement légitime pour venir parler de littérature et d'amour cet après-midi, mais qu'il y a aussi quelque chose de plus engagé en fait dans cette invitation. Vous dire que tout ça est né il y a quelques semaines. J'ai participé à une sorte d'émission de radio, à une émission de radio sur la rentrée littéraire. Et Christine Angot venait de publier un roman, Une semaine de vacances, un texte très fort sur l'emprise, comme ça, qui raconte l'emprise d'un homme, d'un père, sur l'emprise mentale et physique d'un père sur sa fille. Et moi, j'avais été très frappé par ce texte, et je suis arrivé dans cette émission en pensant qu'on allait peut-être en parler, mais ce n'était pas sûr. Et tout d'un coup, l'animateur a dit « Bon, alors, le nouveau Christine Angot, qu'est-ce que vous en pensez ?» Et les autres intervenants ont réagi avec une violence absolument incroyable, qui m'a beaucoup sidéré. L'un d'entre eux a dit « Mais vous savez, ce livre n'aurait même pas dû être publié ». Un autre, qui est responsable d'un supplément littéraire tout à fait respectable et important, a dit, vous savez, la rentrée littéraire, la vie est trop courte pour ouvrir même un livre de Christine Angot. Et ça m'a beaucoup frappé. Alors je suis sorti de cette émission un peu sidéré et je suis rentré au journal, au Monde des Livres, en parlant avec mon équipe et nos équipes, et en disant, quand même, peut-être qu'on va la défendre encore plus qu'on comptait le faire. Donc on s'est engagé très très fort aux côtés de Christine Angot depuis... Cette rentrée, il s'agit donc de lui rendre justice, de faire entendre son écriture et aussi sa parole. Et ce n'est pas du tout un engagement volontaire, cet engagement, il rejoint la vocation du forum. Le forum a une vocation évidemment philosophique, de recherche de la vérité, mais on passe chaque année beaucoup de temps à montrer qu'il n'y a pas que la philosophie qui pense et qui découvre des vérités. Badiou lui-même a parlé hier matin de l'amour comme puissance d'élucidation, comme procédure de vérité. Eh bien, il y a chez Christine Angot également une éthique de la vérité. Elle dit souvent que pour elle, écrire, c'est dire le vrai, essayer de dire le vrai, y compris des vérités qui font mal. Et c'est ça que nous avons voulu saluer, nous, au Monde des Livres, et que vous allez, j'espère, entendre là maintenant, c'est que Christine Angot est porteuse d'une vérité, non pas du tout provocatrice, mais souvent scandaleuse. Voilà, Christine Angot, merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Je vous donne la parole maintenant pour 20 à 25 minutes. Merci.
Je ne peux pas isoler l'amour de mon amour de la littérature. Les deux sont liés depuis le début. Voilà comment ça a commencé. J'avais 22 ou 23 ans. Claude et moi étions mariés depuis un an. Nous vivions à Reims. Nous étions partis en week-end à Amsterdam. Nous n'avions aimé ni la ville ni l'hôtel. Nous avions décidé de rentrer plus tôt que prévu en faisant un détour par la côte. Nous nous étions arrêtés à Scheveningue, avions repris la voiture jusqu'au Touquet. Nous avions loué une chambre à la Côte d'Opale. J'ai souvent voulu retourner dans cet hôtel. Il n'existe plus. Il était sur le boulevard de la plage. On y avait déjà passé les 2 jours qui avaient suivi notre mariage. Nous étions contents d'être là. C'était le soir. Nous venions de rentrer dans la chambre. Nous avions acheté une tablette de chocolat au lait et aux noisettes, Milka, dans son emballage mauve. J'avais un jogging blanc d'Eurotennis. Deux N rouges étaient imbriqués sur mon torse et les manches étaient un peu courtes. J'étais sur le lit, pieds nus, appuyé contre deux oreillers. Nous bavardions, nous lisions. Puis, alors qu'une telle pensée ne m'avait jamais traversé l'esprit, de toute ma vie, je faisais des études en droit, me voyais dans quelques années travaillant dans une organisation internationale ou dans une entreprise en droit du travail, j'avais pris le papier du chocolat et commencé à écrire comment s'était passé Amsterdam. Puis, deux feuilles de papier à lettres dans un tiroir pour continuer. Je me déplaçais à l'époque sans carnet ni papier. Ensuite, j'avais demandé à Claude s'il pouvait descendre à la réception et remonter du papier blanc, sans préciser ce que je faisais. J'aurais pu être en train d'écrire une lettre. J'avais continué, lui avait montré, tiens, regarde, comme ça, comme si j'avais pris une photo de vacances et la lui avait montrée, sans aucune autre intention. Et là, surprise. Il dit qu'il n'a jamais lu quelque chose qui ressemble à ça. Il fait des compliments très forts. Je trouve ça gentil, mais je ne me permets pas d'y croire. Il insiste. Je reprends les feuilles, je les relis. J'essaye de comprendre ce qu'il veut dire. Je suis incrédule. Je prends les dernières feuilles blanches, je continue, recto verso. J'aime faire ça. Je lui donne les pages supplémentaires à lire après les avoir numérotées. Je le regarde pendant qu'il lit. Son visage, je guette, la bouche, les yeux. Il a fini. Il n'a pas changé d'avis, il maintient. Il continue de me dire que ça ne ressemble à rien d'autre, que c'est vraiment bien. Il dit qu'il en est sûr, qu'il lit suffisamment pour en être sûr. Je lui dis qu'il faut qu'il arrête. Je hausse le ton, car si c'est une plaisanterie, je dis que je ne la trouve pas drôle, qu'il vaut mieux qu'il arrête tout de suite plutôt que de me leurrer par des compliments factices, sauf s'il en est sûr à 100%. S'il n'en est pas sûr à 100%, je lui demande de se taire, car moi, ça me fait plaisir, et je ne veux pas croire quelque chose qui ne soit pas vrai. S'il dit ça pour me faire plaisir, je lui demande d'arrêter. Ou alors qu'il se justifie, qu'il explique. Je dis qu'il ne se rend peut-être pas compte de ce qui est en train de se passer, que je sens que je pourrais le croire, que je ne veux pas s'il y a une petite chance que ce ne soit pas vrai, qu'il peut se tromper. Il relit. Il récidive. Il redit la même chose. Je lui demande de me montrer quel mot, quel détail, quel point précis lui font affirmer ce qu'il affirme. Il me montre des exemples sur le papier mauve et les feuilles qui suivent, en les commentant. Je sens que je ne pourrai plus résister encore longtemps. J'ai peur que ses sentiments pour moi le trompent, qu'il se trompe et du coup me trompe. D'y croire, de gâcher ma vie pour rien. Je sens que ça peut être très grave. Je n'en suis pas encore là, je le pressens. Je sens ma vie qui peut basculer en une heure. Tout ce que j'ai cru jusque-là peut s'effondrer. Je suis en train de me mettre à rêver d'autre chose. Ça me fait peur. Je rêve de ne plus faire que ça, feuille blanche après feuille blanche. Je ne veux pas rêver. Je suis inquiète. J'ai trop peur de me tromper. On s'endort. Je m'endors en pensant à ça. Le lendemain matin, je retourne chercher des feuilles à la réception moi-même. J'écris encore un peu. Je les lui fais lire. Et on part sur la plage, la grande plage du Touquet. Nous sommes en hiver ou en automne. La plage est déserte. Un ou deux chevaux et peut-être un ou deux chars à voile. On longe la mer. J'ai encore les cheveux longs. Je les attache. Je me fais souvent une petite queue de cheval. Il y a du vent. Claude a une voix grave, chaude, il est grand. Je me sens protégée par lui. Il est professeur d'anglais. Il passe son agrégation. Nos parents travaillent ensemble. Son père est le directeur de ma mère. C'est comme ça que je l'ai connu. Ce que j'aime chez lui, c'est que, alors que moi, je me sens invisible, que j'ai un air sage, avec mes cheveux lisses, ma raie sur le côté, mon école privée, et le fait que je ne suis jamais sortie avec un garçon de mon âge, avant lui, je n'avais connu que des garçons beaucoup plus âgés, lui ressemble à son époque. Il aime la musique, le rock, le cinéma, la littérature. Il a des centaines de disques, il les connaît par cœur, il lit les journaux, il a des copains, il passe des heures à discuter et à rire. Il fait des manifs, il parle politique, il aime la philo, il a vécu à l'étranger. On aime marcher tous les deux, on aime se promener en se donnant la main. On ne s'ennuie jamais ensemble. Je me réfugie souvent dans ses bras. La chaleur que j'y éprouve est unique. On marche, on se donne la main, on est sur la plage. J'ai l'habitude de ses compliments. Mais d'habitude, ce qu'il dit ne me rend pas folle comme ça. Ça me fait juste plaisir. Il me dit souvent que je suis belle. Comme lui n'est pas très beau, ça ne me flatte pas. Que je suis intelligente, qu'il m'aime. Il n'est de toute façon pas le premier à me le dire. Qu'il m'aimera toujours, quoi qu'il arrive. Et qu'il est sûr qu'on restera toujours ensemble. Mais là, ce qu'il dit là, sur cette plage, c'est autre chose. Et je ne réagis pas de la même façon. Ça ne glisse pas sur moi. Il me dit qu'il adore ce que j'ai écrit, que j'ai un style. Ce compliment-là me rend dingue. Et même ce compliment m'agresse. Parce que je suis en train de dévisser de moi-même, de ce que je croyais être. Je ne me reconnais plus et je ne sais pas s'il s'en rend compte ou s'il pense me faire un compliment comme les autres. Les conséquences de celui-là peuvent être graves parce que je peux y croire. Modifier ma vie entière à partir du lendemain, si j'y crois. Tout arrêter, je sens que je pourrais. Tout le reste, qu'il pourrait ne plus y avoir que ça. Je peux ne plus faire que ça. Ne plus croire qu'à ça. En est-il conscient? S'en rend-il compte? Le sait-il? Le mesure-t-il? Le comprend-il? Pendant 3 jours, on a longé la plage du Touquet de long en large et on n'a parlé que de ça. Pendant ces 3 jours à marcher dans le sable, Claude n'a pas dévié. Il a maintenu son premier jugement. Quand on est rentré, je me suis mise à un petit bureau près de la fenêtre dans notre appartement à Reims. J'ai continué. J'ai écrit 100 pages à la main sur un petit écritoire en bois ciré que m'avait offert ma mère pour mon dernier anniversaire. Je les faisais lire à Claude quand il rentrait du lycée et j'attendais son verdict. Il y avait parfois des petites retouches à apporter. Il lui arrivait de dire que telle livraison était moins bonne que la précédente. 2 ans après, peut-être moins, 1 an, on décidait de se séparer. Je lui disais que je n'étais pas assez amoureuse de lui et que je voulais vivre autre chose, que j'avais besoin de rencontrer quelqu'un d'autre. Je continuais mes études, l'écriture n'avait pas encore pris toute la place. J'écrivais quand j'avais le temps, après avoir travaillé mes cours. Mes études restaient la priorité et j'envisageais encore d'avoir une vie professionnelle. J'ai passé mon DEA de droit public international. Après, j'ai eu une bourse pour aller étudier le droit européen à Bruges. Le changement de ville serait l'occasion de la rupture. Claude a été nommé à la fac de Nice. Je suis allée à Bruges. Je ne m'y suis pas sentie bien. Je n'arrivais plus à travailler. Je commençais à ne plus croire à mes études. À la bibliothèque, j'écrivais. Et le soir, au fur et à mesure que les semaines et les mois passaient, j'appelais Claude. Il y avait une centaine d'étudiants venus de toute l'Europe, du monde entier même, tous obsédés par l'idée d'avoir un poste important dans une organisation internationale. Il y avait des fêtes chaque week-end, j'avais des amis, on s'amusait, on se promenait la nuit dans les rues, les canaux étaient gelés. On faisait du patin à glace dessus, sans patin. On glissait directement sur nos semelles. Un Canadien, que j'ai revu par hasard il y a 1 an dans un restaurant à Paris, m'avait prise par la main une nuit et on avait traversé la ville en glissant sur les canaux gelés, en riant. Mais quelques semaines plus tard, il était sorti avec une Espagnole qu'il épousera en sortant de l'école. Il y avait un Belge d'origine italienne qui me plaisait et à qui j'avais l'impression de plaire, mais je n'en étais pas sûre. Tous les dimanches, il venait me chercher pour qu'on aille se promener. Je n'arrivais pourtant pas à en être sûre. Peu à peu, j'ai commencé à m'enfermer dans la cabine téléphonique tous les soirs et à dire à Claude qu'il me manquait. Je pleurais au téléphone. Il est venu me voir pendant les vacances de février. On a fait la liste de ce que chacun garderait quand on divorcerait. Le dimanche, il repartait. Je lui ai dit de m'attendre. Le temps de faire ma valise, je venais avec lui. Je renonçais à la bourse et à cette carrière. Il n'aurait qu'à me déposer à Reims, sur le chemin. Je voulais rentrer en France, faire taper mon manuscrit et l'envoyer dans des maisons d'édition. Je ne travaillerais pas dans une organisation internationale. De toute façon, à la bibliothèque, j'écrivais. J'avais déjà pris beaucoup de retard dans mes cours. Je n'étais plus capable de m'intéresser à mes études. Je n'y croyais plus. C'était fini. Je ne pensais plus qu'à ce manuscrit que je traînais partout avec moi. J'ai dit à l'assistant en droit que je quittais Bruges parce que je voulais écrire. Je pensais qu'il me comprendrait parce qu'il aimait la littérature et qu'on en parlait. Il avait dans sa chambre la collection complète des Artaud. Mais il m'a dit que renoncer à cette bourse et au diplôme était une hérésie, que je faisais une erreur, que c'était stupide parce que je pouvais très bien travailler à la commission le jour et écrire le soir ou le week-end. À moi, ça ne paraissait pas possible. Ça ne m'intéressait plus. Je ne pouvais plus. À la bibliothèque, le travail, les cours me tombaient des mains. Claude m'a déposé à Reims. Il a continué sa route vers Nice. J'ai fait taper le manuscrit. Je l'ai envoyé à des éditeurs dont je trouvais l'adresse dans l'annuaire. Je m'interrogeais sur ma vie amoureuse. Claude ne me plaisait pas. J'étais bien avec lui, mais il ne me plaisait pas. J'étais déçue que rien ne se soit passé à Bruges, ni avec le Canadien, ni avec le Belge, ni avec personne. Je n'avais aucune énergie pour ça. Il n'était pas question que je me déclare à qui que ce soit. C'était au-dessus de mes forces. Alors j'attendais. Quand ça arrivait, je ne comprenais pas. Je n'arrivais pas à être avec quelqu'un d'autre que Claude. Je l'aimais toujours, d'un amour sans désir. Je lui ai demandé de me trouver un petit appartement à Nice pour au moins être auprès de lui. J'ai revu le garçon avec qui j'étais avant. On a refait l'amour. Claude a été jaloux, il l'avait senti sans que je lui dise. J'ai cherché du travail à Nice, j'en ai trouvé. En 3 semaines, j'ai trouvé 3 emplois différents. La première fois, au bout d'une semaine, la troisième, l'après-midi même, j'abandonnais. Je ne m'intéressais plus à rien qu'à écrire. J'étais de plus en plus inquiète. Comment j'allais vivre? Comment j'allais gagner ma vie? Je ne pouvais pas faire les choses qu'il y a à faire pour gagner de l'argent. La première fois, j'ai trouvé du travail dans un cabinet d'avocats comme stagiaire. Je devais passer le CAPA. Je savais que je ne le passerais pas. Je ne regardais même pas les dossiers. J'avais un petit bureau pour moi seule qui s'ouvrait dans l'entrée à côté de la porte. La fenêtre donnait sur une cour intérieure. J'écrivais dans un cahier que je cachais dans le dossier que je prétendais préparer et que je ne pouvais pas m'empêcher d'ouvrir. En théorie, j'étais capable de comprendre les dossiers, mais je ne comprenais rien. Je lisais sans lire. Les mots glissaient sous mes yeux sans que j'arrive à les saisir. Je ne croyais pas à la nécessité de moi, là, dans ce cabinet, à faire ce travail. Je ne croyais pas à la réalité dans laquelle je vivais. Je ne croyais pas à ce qui se passait. J'ai acheté une machine à écrire à un garçon qui m'avait dragué sur la promenade des Anglais et qui m'avait dit être écrivain. Ce jour-là, j'étais habillée tout en rouge. J'étais assise sur une des chaises bleues qui bordait la promenade et je regardais la mer. Il n'était pas publié, mais il avait donné son manuscrit à Leclésio, qui lui avait dit qu'il fallait un polissage. Il m'a encouragée à aller lui montrer ce que j'avais écrit. Je suis allée quai des Deux Emmanuels, sur le port, je suis montée au 3e étage, la mère de Leclésio m'a ouvert, elle a pris mon manuscrit en me disant qu'elle le lui donnerait. Elle avait des cheveux blancs et un visage très pâle. 10 jours plus tard, une lettre mystérieuse arrivait chez moi. Il y avait écrit « Leclésio » au dos de l'enveloppe. Il avait aimé mon manuscrit. Il le trouvait comme ci et comme ça, je ne me souviens plus de ce qu'il disait. Il l'envoyait de ce pas à Simone Gallimard. J'exultais. Les jours suivants, je passais devant la poste qu'il y avait au port avec le cœur qui battait. À la fin de la semaine, je quittais l'avocat en lui disant que je renonçais au CAPA car j'avais écrit un livre et j'allais être publiée. Je ne l'ai pas été. Je ne l'ai été que 6 années plus tard, après l'envoi et l'échec de 3 manuscrits. Le 2e emploi que j'ai pris était dans un centre de formation à Cagnes-sur-Mer. J'étais censée être formatrice. Je l'ai quitté l'après-midi même. Je me suis dit... Tu aimes les livres, tu n'as qu'à travailler à la FNAC. J'ai postulé au rayon librairie. On m'a prise pour le remplacement des vacances. C'était l'été. J'avais le petit gilet sans manches, rouge et marron de la FNAC. Là non plus, je n'arrivais pas à y croire. Les heures ne passaient pas. L'ennui me démoralisait. Claude m'a dit que j'allais écrire et qu'on allait vivre sur son salaire. On avait décidé de revivre ensemble, on était bien, heureux, mais je ne voulais pas d'enfant, je voulais publier d'abord. Ma vie ne pouvait pas commencer. Tant que je n'étais pas publiée, je n'avais rien à offrir. Les gens me croyaient vivante, je ne l'étais pas. Les histoires de passion amoureuse me paraissaient un luxe que je ne pouvais pas m'offrir. Rien de ce que la vie propose n'était à ma portée. Les choses que je les saisissais par hasard, puis elles me glissaient des mains. Immanquablement, mes mains se desserraient. J'étais dans les starting blocks. Quand le coup de feu partait, je me mettais à courir. Je courais, mais je me fichais de gagner, je me fichais d'arriver, je me fichais de courir. À la FNAC, je m'étais fait un ami, un libraire. Il m'avait donné des adresses d'éditeurs. Je lui avais fait lire mon manuscrit. J'avais deux lecteurs maintenant. Claude me photographiait à ma table de travail. Le plateau de mon bureau était une plaque en verre sur laquelle était posée ma machine à écrire. Il se mettait en dessous et me photographiait à travers la plaque de verre. J'avais acheté cette machine à celui qui m'avait dragué sur la promenade des Anglais et qui avait pris pour lui le modèle au-dessus. Le soir, quand Claude rentrait de la fac, souvent j'avais eu au courrier des lettres de refus. Je lui demandais s'il osait continuer de dire que ce que je faisais, c'était bien. Devant l'évidence de ces refus qui se multipliaient, qu'avait-il à dire ? Les années passaient. Je gâchais ma vie à écrire des trucs qui n'intéressaient personne sauf lui. Je me demandais parfois s'il n'était pas mal intentionné, si ce n'était pas pour lui le meilleur moyen de m'avoir sous la main et de me tenir. Et puis, j'ai été publiée, au bout de 6 ans de refus. L'après-midi, pour fêter ça, je suis allée voir Les Liaisons dangereuses au cinéma Pathé. La vie allait commencer, j'allais enfin pouvoir l'apprécier. En rentrant par le boulevard du Bouchage, je me revois traversant la rue me dire avec le sourire « Je vais être heureuse toute ma vie ». Ce problème de la publication étant réglé, 2 ans après, j'ai eu un enfant. Mon amour pour elle a entravé l'écriture, jusqu'à ce que je décide, en dépit de la trivialité du sujet, de le transporter dans un livre. Je me suis remise à respirer. Quand je me levais le matin, mon amour pour mon enfant et celui pour la littérature allaient de pair. Ça fusionnait. Tout allait bien. Les ventes étaient catastrophiques. J'avais commencé à 900, j'étais descendue à 500, puis 300. Le manuscrit suivant était refusé par mon éditeur. Il disait que j'étais dangereuse pour ma fille et pour Claude, que j'utilisais, qu'il fallait m'arrêter dans cette entreprise. Je ne vais pas raconter ici chaque détail de cette aventure. Je saute des années. Claude et moi, nous nous sommes séparés. Après lui, a commencé une longue série de rencontres approximatives. Je voulais ressentir, en plus de ma passion pour la littérature, de la passion pour des êtres humains. Je n'arrivais plus à me cacher que le long amour que j'avais eu pour Claude et qui m'avait permis d'accepter l'autre amour de ma vie me frustrait. Que, à 38 ans, je n'avais jamais été follement amoureuse d'un être humain, sauf de ma fille, en dehors de quelques épisodes extrêmement courts. J'ai commencé alors, pendant quelques années, à faire des rencontres. Je tombais amoureuse. J'ai aimé quelques personnes. Le même mouvement naturel qui faisait que j'avais écrit l'amour pour mon enfant me poussait à écrire celui pour eux, pour que les deux passions fusionnent, pour que l'une soit la même que l'autre, pour que, me levant le matin, mon amour pour l'écriture soit le même que celui pour la personne, pour qu'il n'y ait pas de guerre, pas de conflit, pour qu'on fusionne dans la même foi. Mais eux n'avaient pas cette foi. Il y avait pourtant dans la liste toute une série de littéraires, profs de littérature, journalistes, acteur, notable et grand lecteur, possesseur de longs rayons de bibliothèque. Mais non, on aurait dit que les livres leur enlevaient quelque chose. Leur crainte me dégoûtait d'eux, m'en éloignait. Les ruptures s'enchaînaient. Ils voulaient tous que je change des passages, que je corrige. Ils n'aimaient pas la littérature, ils aimaient la contrôler. J'ai sérieusement pensé alors que je serais toute ma vie privée d'amour et que je serais toute seule pour vivre celui que j'avais pour la littérature. Que personne n'accepterait de m'accompagner là-dedans, de m'aider, d'accepter les longs moments où je ne peux pas faire l'amour parce que j'écris une semaine de vacances, par exemple, et qu'il m'est impossible de couper mon temps en deux pendant que j'écris mes souvenirs du dégoût que je ressentais à l'époque pour mon père, et quand je retrouve Charlie, de relâcher mon corps et de le laisser entrer en moi. Ça, ce n'est pas possible. Je pensais que personne ne le comprendrait jamais. Que donc, il n'y aurait jamais de répit, jamais de partage, que je serais toujours seule avec cet amour pour la littérature. C'est quand même assez dur de sentir que sa vie est dirigée par un être qui n'existe même pas, qui n'est même pas de chair, de penser que sa relation déterminante, je ne veux pas dire principale, mais déterminante, se fait avec un être qui n'existe pas. Pensez ça, le voir comme une infirmité, en souffrir, en avoir honte même, au point que quand j'ai appris que j'étais invitée à ce forum, au Mans, par le journal Le Monde, je me suis dit dans un premier temps que pour ne pas éprouver cette honte en public, pour ne pas voir mon handicap étalé au grand jour, je ne parlerai pas de mon amour pour la littérature ni du danger qu'il m'a fait courir, être privée d'amour. Et pas seulement ce danger-là. Une fois que les choses sont écrites, par exemple une semaine de vacances quand ça a été écrit, le danger de douter, de se demander si on a vraiment vécu ce qu'on a écrit. Étant donné que l'écriture fait disparaître toute forme de souffrance, c'est dangereux. Ce n'est pas thérapeutique, au contraire. Au moins, quand vous souffrez, vous savez que vous avez vécu quelque chose, alors que là, vous ne savez plus. Écrire fait disparaître tous les sentiments. Un sentiment écrit, c'est un sentiment que vous n'avez plus. Vous ne ressentez plus. J'aime la littérature, mais je n'aime pas perdre mes sentiments et me demander si j'ai vraiment vécu. Écrire, c'est accepter que celui que vous aimez est là avant tout pour vous aider à pouvoir écrire. J'ai lu dans Elle un entretien entre deux femmes écrivains qui ont écrit un roman avec un personnage de père. La journaliste leur demande « Vos parents ont-ils lu vos livres? Avez-vous des regrets ?» Puis elle pose une question à laquelle je ne m'attendais pas. « Pensez-vous, comme Christine Angot, que, en littérature, on n'a ni famille ni amis ?» Réponse de l'une des interviewées. « Non, pas du tout. Moi, j'écris pour mes amis. J'espère que je vais les faire rire, qu'ils vont se reconnaître, comprendre. Je ne sacrifierai jamais une famille à mes livres. » Je ne sacrifierai jamais une famille à mes livres. Pour ces gens-là, il n'est pas question de sacrifier quelque chose qui existe à quelque chose qui n'existe pas. Quelques jours plus tard, j'étais invitée au ministère de la Culture à un dîner rentrée littéraire. Nous étions une dizaine, plus la ministre et ses conseillers. La conversation est partie sur l'absence de statut des écrivains. Tous se plaignaient de ne pas avoir de retraite. Pas de sécurité sociale, pas de mutuelle complémentaire. Mon cœur battait. Je ne parlais pas. Je ne disais rien. J'essayais de me calmer tout en mangeant mon pain. Voilà, merci beaucoup.
Merci beaucoup, Christine Angot. Merci pour cette belle histoire. Vous savez que Fabrice Hadjadj, hier, a dit quelque chose comme « Il n'y a pas vraiment de pensée de l'amour, il y a plutôt des histoires d'amour ». Et je vais maintenant me tourner vers un autre écrivain, Camille Laurence, qui en sait quelque chose des histoires d'amour et qui a beaucoup travaillé sur les enjeux et aussi sur les limites de l'amour comme récit, justement, comme histoire, comme héritage et comme filiation. Alain Badiou disait, il citait cette formule d'Althusser disant « Nous sommes tous les anciens combattants de notre enfance ». Et il y a... chez Camille Laurence, évidemment, cette conception de l'amour comme héritage, comme généalogie. Je pense notamment à ces beaux romans que sont Romance, justement, Dans ces bras-là, Amour, roman, trois livres publiés chez POL, et qui explorent l'amour en tant qu'il a besoin des mots pour exister, en tant aussi qu'il se transmet par bouffée de langage, hein, comme disait Barthes, et ce, de génération en génération. On parlait ce matin des nouveaux désordres amoureux. Dans ses livres, Camille Laurence s'efforce, au contraire, de mettre de l'ordre dans sa mémoire et dans sa vie. Elle répertorie un à un les amours, l'amour du père, l'amour de l'amant, l'amour du psychanalyste, l'amour du fils, l'amour de l'éditeur, si bien que de texte en texte, elle a bâti une œuvre littéraire qui peut se lire véritablement comme une généalogie de l'amour, je le disais, une sorte d'enquête sur l'humanité en tant qu'elle se trouve justement pétrie en permanence par des histoires d'amour et par ce que Camille Laurence nomme l'espérance infinie d'aimer.
Amour, toujours ? Point d'interrogation. C'est une question, mais je ne sais pas laquelle. S'agit-il simplement, comme dans les chansons, de se demander si l'amour rime avec toujours, le verbe aimer avec l'éternité ? Et sinon, s'il ne dure pas toujours, combien de temps ? Quelle est la durée de l'amour ? Est-ce qu'il dure 3 ans, comme le certifient les neurobiologistes, fondant le sentiment dans la chimie des phéromones ? Est-ce qu'il ne dure que le temps d'un moment, plaisir d'amour, laissant au dépit toute la vie, chagrin d'amour ? Ou bien l'interrogation est plus pernicieuse, plus cynique, elle est terrible. Amour, toujours ? Elle signifie alors, est-ce que l'amour existe toujours ? Est-ce qu'il est encore pertinent d'user du mot comme d'un grand mot, d'un mot essentiel, pour désigner une chose vitale, ou faut-il le ranger au magasin des accessoires, ou bien lui reconnaître enfin son statut d'impossible ? Il y a une dizaine d'années, Nicolas Sirkis, chanteur du groupe Indochine, ayant lu mon roman « Dans ses bras-là », me proposa de lui écrire une chanson. Au bout de quelques jours, je lui envoyai un texte. Je n'ai pas conservé l'intégralité des paroles, que lui non plus n'a pas conservées, mais je me souviens que le refrain, fondé sur une réminiscence de l'aphorisme de Jules Renard « Il n'y a pas d'amis, il y a des moments d'amitié », jouait sur la répétition du mot « amour ».« Il n'y a pas d'amour, il y a des moments d'amour. Il n'y a pas d'amour, il y a des souvenirs d'amour. Il n'y a pas d'amour, il y a des preuves d'amour, etc. » Peu après, Nicolas Sirkis m'appelle. Il me félicite, ma chanson lui plaît beaucoup, non ? Vraiment. Je suis ravie. Il y a juste un petit truc qui cloche, ajoute-t-il néanmoins. Ah oui ? Oh, c'est un détail. Ah bon ? Oui, ce qui ne va pas, c'est le mot « amour ». Il faut l'enlever. Ah, mais pourquoi ? Tu parles d'un détail. Mais parce que ce n'est pas possible. Tu comprends, l'amour, ça ne se fait plus. Me voilà donc à propos de l'amour avec une double question dont l'une anéantit l'autre, non pas tant est-ce que ça dure que est-ce que ça existe. Ou une autre encore, est-ce que c'est toujours d'actualité ? La vraie question, alors, plutôt que l'amour toujours, n'est-elle pas plutôt l'amour tout court ? Je ne vais pas tenter d'y répondre à l'aide de mon expérience personnelle, mais à travers ce pourquoi je pense avoir été invitée ici, c'est-à-dire à travers la littérature, celle que je lis et celle que j'écris, les deux étant indissociables. Ce que j'ai éprouvé de l'amour, je l'ai d'abord vécu dans les livres. J'ai été Phèdre, Bérénice, la princesse de Clèves, Nadja, Madame Bovary, Anna Karénine, Belle du Seigneur, Lolvestein, Anne-Marie Streiter. Les émotions qu'elles ont ressenties dans les livres, je les ai reconnues dans ma vie. Peut-être même ne les ai-je éprouvées avec cette intensité que parce qu'elles existaient dans les livres. Mais j'ai reconnu aussi et compris et aimé et détesté Julien Sorel, Frédéric Moreau, Adolphe, Marcel, Solal et beaucoup d'autres. Et au moment d'écrire des romans d'amour, ils étaient tous là. Sans eux, sans ces personnages en proie à l'amour, mes passions seraient différentes. Sans eux, mes livres seraient différents. On dit que j'écris des romans d'amour. À chaque nouvelle parution, on m'accueille dans les émissions littéraires. Alors, Camille Laurence, toujours l'amour. C'est souvent un peu ironique, voire misogyne. Vous savez bien, l'amour, c'est une marotte de femme. C'est son dada. Eh bien, pourquoi non ? J'aime assez le mot, c'est un mot enfantin qui me va très bien. L'amour, c'est mon dada. Depuis l'enfance, depuis les premiers contes, depuis Le Prince Charmant et La Reine des Neiges, un moyen de transport parfois merveilleux, d'autres fois une monture indocile qui ne m'emmène pas où je veux, ou qui me désarçonne, mais bon an mal an, et bien que je ne la ménage pas, nous voyageons loin, ensemble. Pourquoi est-ce que l'amour est mon principal centre d'intérêt ? Parce que je ne suis pas seule au monde, parce qu'il y a l'autre. Parce que l'amour, ou son revers de haine, ou son déni d'indifférence, mais s'y rapportant toujours, l'amour est ce qui nous lie l'un à l'autre. C'est une religion au sens strict, ce qui relie. Et en ce sens, j'ai deux religions, la littérature et l'amour. L'amour, c'est l'intelligence de l'autre, le souci de l'autre, l'acceptation de l'autre dans sa différence. Qu'est-ce que je fais, moi, de cette altérité, de cette différence qui nous constitue l'un et l'autre, et qui n'est pas seulement ni forcément sexuelle, qui est une différence plus fondamentale encore, plus basique ? Tu n'es pas moi. Qu'est-ce que l'autre me fait ? Comment le pas moi me touche-t-il ? Comment me blesse-t-il ? Comment le comprendre ? Comment nous rejoindre ? Ce sont des questions qui, pour moi, dépassent l'espace du couple. Elles sont sociales et politiques. Elles sont, comme le souligne Alain Badiou dans son éloge de l'amour, révolutionnaires. En effet, s'il y a un malaise dans la civilisation, n'est-ce pas avant tout parce que l'amour manque ? J'écris des romans d'amour, donc. Je tiens beaucoup au « de ». J'écris des romans d'amour, comme on dirait « je vous écris d'un pays lointain ». C'est-à-dire j'écris depuis l'amour et non sur l'amour. L'amour n'est pas un sujet, c'est un lieu. Le lieu de naissance de l'écriture, son cœur battant. J'écris pour, j'écris depuis, j'écris à partir de l'amour, j'écris d'amour. Vivre, écrire, inséparable. Dit Hélène Cixous dans La venue à l'écriture, vivre, écrire, inséparable. L'amour est ce qui m'anime, comme je pense c'est le cas pour vous aussi. Et je ne me lèverai pas le matin pour écrire si je ne croyais pas, même un peu seulement, que j'écris d'amour. Vous me direz si c'est un lieu, c'est qu'il existe. Oui, enfin, c'est à creuser, justement. J'écris d'amour, c'est aussi et surtout j'écris depuis le manque d'amour ou depuis le rêve d'amour. Marguerite Duras disait « on écrit sur le corps mort de l'amour ». C'est peut-être un lieu utopique, un pays de nulle part, ou un lieu vide et dévasté, où tout reste à faire, ou une île imaginaire, une Atlantide dont parlent les légendes. Et depuis le temps que j'y suis, je l'ai exploré, je l'ai vu sous différents angles, sous différentes lumières. Pour les besoins de ce forum, je suis retournée voir dans quelques-uns de mes livres où m'avait mené mon dada ces 10 dernières années et ces 5 derniers romans. C'est ce parcours subjectif et littéraire que je me propose de refaire brièvement avec vous, car je ne peux pas parler de l'amour en général, d'ailleurs il n'y a pas de science de l'amour. L'amour est toujours relié à quelqu'un. Quand j'ai écrit en 2000 « Dans ces bras-là », écrit « Depuis l'amour des hommes », j'éprouvais très fortement que, contrairement à ce qu'assure Nicolas Sirkis, l'amour, ça se fait. La narratrice du roman, dans sa quête de l'autre comme autre sexe, comme sexe opposé, voit dans le rapport sexuel un moyen d'établir le rapport, justement. L'érotisme, comme son nom l'indique, est la voie d'accès à l'amour, et l'étreinte sonne aux oreilles de la narratrice comme l'anagramme d'éternité. L'amour existe puisque je le fais, pense-t-elle. Et il existera tant que je le ferai. Mais non pas seulement dans le sens du rapport sexuel, je fais l'amour, mais au-delà dans l'idée qu'avec l'autre, je peux créer de l'amour, en l'embrassant, c'est-à-dire aussi en le comprenant. Dans ces bras-là est porté par cette obsession tout entier tendue vers l'exploration passionnée de la différence sexuelle, comment s'approcher de l'autre, le connaître, naître avec lui, réinventer le monde avec lui et le partager avec lui. À la fin du roman, la narratrice dit non pas tant à un homme précis qu'à un horizon masculin « J'écris vers vous », qui rappelle ce que proposait Lacan, c'est dans le séminaire Encore, en 1973. « Je pense à vous », ça ne veut pas dire que je vous pense. La narratrice de « Dans ces bras-là » ou celle de « Cet absent-là » publiée en 2004 expérimente l'amour comme mouvement vers, comme atteinte, toucher, être touché, soudain. En même temps, le roman se focalise sur le mystère de la rencontre amoureuse, le fameux « parce que c'était lui, parce que c'était moi », l'énigme de deux êtres différents qui font alliance, qui s'unissent. Cette union est rêvée sur le mode fantasmatique comme une réduction du « deux » à « l'un ». C'est ce que la narratrice explique à son psychanalyste. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la différence des sexes. Ce que j'attends de la relation avec un homme, j'attends, oui, on peut dire que le mot est juste, j'attends, c'est qu'elle me rapproche de lui à la fois pour confirmer cette différence et pour l'abolir. Faire l'amour, c'est en même temps être une femme et être comblée d'un homme. Je parle de la pénétration, avoir l'autre en soi, être dans l'autre. Ce qui est étrange, c'est que le désir naît de cette différence, mais qu'il tend tout entier, me semble-t-il, vers sa disparition. Ce qui m'attire chez un homme, c'est que c'est un homme. Et ce qui me rend heureuse après, dans l'amour, c'est que nous sommes les mêmes. Voilà ce que j'attends d'un homme, ce rapprochement jusqu'à la fusion, ce moment, comme dit si justement le cliché, où les corps se confondent. Et la rencontre se présente sur le mode du destin et du miracle, dont le modèle littéraire est le fameux « ce fut comme une apparition » dans l'éducation sentimentale, même si, comme vous le savez, Frédéric Moreau et Madame Arnoux, en fait, ne se rencontreront jamais charnellement. Mais c'est ce miracle de la rencontre, « ce fut comme une apparition », elle était assise au milieu du banc, toute seule. Le premier regard, la vision avec le mot « apparition » et sa connotation mystique. Et l'amour, à ce moment-là, comme le définit Jean Kelevitch, est une élection, non une sélection. C'est un élu, en quelque sorte, qui apparaît, qui sort de l'anonymat, qui devient unique. Et c'est moi aussi qui suis élu, puisque c'est à mes yeux seul que se fait l'apparition. L'amour est donc cette mystérieuse élection, sans qu'aucune explication soit recherchée. Apparaître, être à part, anagramme phonétique de la rencontre. Cet éloge de l'apparition amoureuse et de la rencontre érotique est gravement ébranlé par le roman suivant. D'une part, il s'intitule « L'amour roman », ce qui est déjà éloquent, et qui souligne la dimension imaginaire, le caractère de fiction de l'amour. Ensuite, il s'ouvre sur un exergue pas très optimiste de La Rochefoucauld. Il est du véritable amour comme de l'apparition des esprits. Tout le monde en parle, mais peu de gens en ont vu. C'est un livre dans lequel la narratrice remonte jusqu'à trois générations avant elle, dans la lignée maternelle, explorant la façon dont les femmes de sa famille ont vécu l'amour et l'ont peut-être transmis à travers les mariages arrangés ou forcés, ou quelquefois les mariages d'amour, les enfants désirés ou non désirés, les trahisons, les ruptures, les divorces. Et le roman est focalisé autour de l'idée que l'amour fusionnel est un leurre, que l'amour et moi, même quand je le fais, ça fait deux, et deux séparés. Et que, principalement, ce qu'on peut dire de l'amour, c'est que ça manque, que même l'amour est le nom donné à ce qui manque, à ce qui est perdu, en supposant qu'on ne l'ait jamais eu. Et où, d'une certaine façon, le ratage est programmé de génération en génération. Le mot même d'amour s'affuble alors d'une fausse étymologie. La de l'amour s'entend comme un préfixe, ce que la grammaire appelle un préfixe privatif. Et c'est bien vrai. L'amour est une privation. Il y a quelque chose qui manque, une absence, une abolition, une abjuration, que sais-je. Quelque chose qui n'est pas là, qu'on a perdu si on l'a jamais eu. La de l'amour nous sépare de l'amour, nous tient à distance. On ne peut pas approcher plus. On se heurte à un mur, au mur de l'amour. Un mur aveugle comme seul l'amour peut l'être. On a beau cogner des poings ou toquer gentiment, dire qu'on est là, je suis là, mon amour. Ça n'ouvre pas, ça ne s'ouvre pas. Ça s'entrebâille à peine, vous n'entrez pas comme ça, pas comme chez vous, non. C'est une propriété privée, absolument. C'est privé, l'amour. C'est privé de tout. L'amour se révèle alors comme un leurre, une fausseté, une promesse non tenue. L'amour, c'est des mots, dit la grand-mère de la narratrice, à la fois pour dire que c'est surtout l'objet des chansons, des contes et des romans, mais aussi et surtout que c'est essentiellement du baratin. L'amour devient, au fond, un mythe, comme on a, il y a très longtemps, inventé des récits pour expliquer les orages ou la mort. Eh bien, on a créé le mythe de l'amour pour expliquer le désir ou encore pour conjurer la peur de l'autre ou pour conjurer la peur de la solitude. Et la chanson de référence à ce moment-là, dans l'amour roman, n'est plus « Parlez-moi d'amour, dites-moi des choses tendres », mais plutôt la chanson de Queneau, « Si tu t'imagines, fillette, fillette, que ça va, que ça va, que ça va durer toujours, ce que tu te gourres, fillette, fillette ». L'amour ne rime plus avec « toujours », mais avec « ce que tu te gourres ». Le pessimisme radical de La Rochefoucauld met l'amour en doute. Ne faudrait-il pas lui substituer plutôt, comme le moraliste le suggère, les mots d'amour-propre, d'intérêt, de goût du pouvoir, de la domination, ou même de désir. Sa dimension illusoire en fait un sentiment purement imaginaire ou bien un outil social, encore un rêve, l'objet d'une attente forcément déçue. L'amour devient par définition ce qu'on attend en vain. Il ne rime pas avec « toujours », au contraire, « jamais » sonne dans « j'aime ». Il se bovarise, représente un rêve romantique d'impossible union. Aucun être réel ne peut venir colmater le manque d'amour. Aucun amour ne peut tenir lieu de l'amour, écrit Marguerite Duras dans « Les petits chevaux de Tarquinia », répondant en un sens à La Rochefoucauld lorsqu'il dit que souvent, les femmes n'aiment pas l'amant, elles aiment l'amour. L'amour est donc un idéal, comme un absolu, qui serait surtout l'apanage des femmes, dont l'exigence quant à l'amour semble si grande qu'aucun homme ne peut vraiment les suivre ou les accompagner sur ce terrain. La nature d'une femme, écrit Edith Wharton, est semblable à une grande maison, avec de nombreuses pièces. Et dans la chambre la plus reculée, le sein des seins, l'âme se trouve seule, dans l'attente d'un bruit de pas qui n'arrive jamais. La figure de l'attente de l'impossible amour recoupe d'ailleurs celle de la difficulté d'écrire, et je cite toujours Marguerite Duras, « Je n'ai jamais écrit ni aimé, je n'ai fait qu'attendre devant la porte fermée. » Mon roman suivant, « Ni toi ni moi » en 2006, interroge encore l'amour sous un angle différent. Il est écrit dans l'étroit compagnonnage de Benjamin Constant et de son roman « Adolphe ». Et il pose la question de la désaffection, de ce qu'on appellerait aujourd'hui le désamour. Vous savez, dans le roman de Benjamin Constant, Adolphe tombe amoureux d'Elénor, il fait tout pour la conquérir, et puis assez vite, il se déprend d'elle, il se désaffecte littéralement. C'est-à-dire qu'il n'éprouve plus rien, il ne sait pas comment s'en débarrasser, on peut le dire, pour le dire crûment. Et la narratrice de « Ni toi ni moi » confronte le roman de Constant à son expérience amoureuse, très semblable. « Comment est-ce possible ?» se demande-t-elle. « Qu'est-ce qu'un amour qui finit ? Et qui finit si vite, parfois. Est-ce que c'est de l'amour si ça ne rime pas avec toujours ? Ce n'était pas l'idée que je me faisais de l'amour, qu'il puisse finir, dit-elle. Pourquoi finit-il ? Soit parce qu'il n'a jamais commencé, c'était une illusion narcissique, la simple envie d'être aimé. Et dès que le reflet narcissisant qui nous conforte dans, Notre propre individualité se déforme, on abandonne l'objet. On n'aime pas l'autre, à ce moment-là, on aime le même, on aime soi-même. Sur le versant comique, cela donne ce petit dialogue de Sacha Guitry avec sa femme. « Je t'aime, Sacha. Et toi ?»« Moi aussi, je m'aime. » Qu'on pourrait écrire d'ailleurs « Je m'aime » avec un accent circonflexe. Soit l'amour finit parce qu'on découvre que l'objet aimé n'est pas celui qu'on croyait. On s'est forgé un objet d'amour idéal pour combler le manque initial qui est impossible à combler. Et soudain, on tombe de haut. C'est la chute, c'est la destitution de l'objet aimé. C'est ce qui se passe notamment dans la passion mélancolique et les deux personnages de Ni toi ni moi, la narratrice et son amant, sont tous deux en proie à la dépression liée au souvenir d'une mère morte ou à la présence d'une mère maniaco-dépressive. Et c'était d'ailleurs aussi le cas de Benjamin Constant, dont la mère était morte en le mettant au monde. Et à ce moment-là, le paradis perdu de l'amour maternel, le rêve de ces bras-là, qui ne sont plus les bras d'un homme ou d'une femme, mais les bras de la mère qui nous ont portés enfants, cet amour-là empêche tout autre amour de se réaliser. Et l'autre, dans la vie adulte, n'est qu'avec une sorte de porte-manteau où accrocher son rêve nostalgique, sa mélancolie liée à l'amour perdu, l'amour de l'enfance. Malgré les apparences, la rencontre avec l'autre n'a donc pas lieu. C'est ce qui illustre la fable que racontait Lacan à la fin de sa vie. Elle et lui se sont donné rendez-vous sous la grande horloge au bal masqué de l'opéra. Elle arrive, elle retire son masque. Oh, surprise, ce n'est pas elle. À son tour, il enlève son masque. Ce n'est pas lui non plus. Lacan avait même inventé un mot, l'amure. L'amour rime avec le mur. Parce que rien ne peut abattre le mur qui sépare l'homme de la femme, qui sépare l'un de l'autre. Et ce mur, je l'ai retrouvé dans mon dernier roman, Romance nerveuse. J'ai pensé en l'écrivant au titre d'un livre de Jean-Pierre Lebrun, le psychanalyste Jean-Pierre Lebrun. Le titre de son livre, c'est « La perversion ordinaire, vivre ensemble sans autrui ». Et cette formulation « vivre ensemble sans autrui », résumerait assez bien le contenu de ce dernier roman, Romance nerveuse. C'est-à-dire que c'est plus une élection, l'amour, c'est une sélection, c'est un consumérisme parmi d'autres. Et l'autre est chosifié, l'autre n'existe pas en tant qu'être humain. Pourquoi ? Parce que je crois que la difficulté de l'amour, telle que je la ressens maintenant, de manière contemporaine, vient d'un refus de l'atteinte. Justement, si l'amour, comme le définissait Lacan tout à l'heure, est une atteinte, cette atteinte qu'est l'amour, ben, il y a un refus de se laisser entamer. On ne veut pas être entamé parce que c'est douloureux, parce que ça oblige à changer quelque chose dans sa vie. Et donc, on évite, on se garde de l'amour. Et puis, il y a aussi cette idée qu'on veut rester libre, donc ne pas s'engager, ne s'engager auprès de personne. Je voulais parler aussi un petit peu de la question de l'amour qu'on peut penser comme allant de soi pour les enfants, alors que en fait, ce n'est pas toujours... l'amour vient en plus, comme disait Elisabeth Badinter, et ce n'est pas très facile de se relier à l'être de l'autre, selon le mot d'Alain Badiou. En conclusion, ma conclusion sera sous forme de paradoxe. Pour reprendre l'expression de Barthes, l'amour est à la fois une illusion et une valeur, une sorte d'illusion valeureuse, en fait, qui serait donc vouée forcément à la désillusion. Moi, je préfère le terme de désenchantement plutôt que celui de désillusion, parce que le mot désenchantement implique qu'on peut être réenchanté, et c'est certainement ce qui est le plus important, c'est que si l'amour est voué au désenchantement, il peut revenir. Je pense aussi, puisqu'on parlait de cinéma, à la définition d'Antonioni, l'amour, c'est vivre dans l'imagination de quelqu'un. Donc l'amour est imaginaire peut-être, mais est-ce que ce n'est pas quelque chose de merveilleux que de pouvoir vivre dans l'imagination de quelqu'un ? Est-ce que ce n'est pas une angoisse terrible de ne pas se sentir vivre, de ne vivre dans l'imagination de personne ? L'écrivain fait une expérience semblable par moments de rencontre avec l'insu, avec l'inouï. L'amour, en fait, est une apparition, c'est une présence. L'amour, c'est être là. Et je terminerai par une comparaison avec le spectacle, quand on va voir une pièce de théâtre, un beau spectacle, un spectacle de danse ou une belle pièce de théâtre, on sait bien que ça va finir, qu'à un moment, on va se lever, on va s'en aller. Mais pendant qu'il a lieu, on y croit. Voilà, je crois que l'amour existe puisque j'y crois.
Merci beaucoup Camille Laurence, merci. Nous allons maintenant passer la parole à Michel Schneider. Comme vous le savez, ce forum philo Le Monde Le Mans a une vocation toujours plurielle, pluraliste. Voilà, on a parlé littérature cet après-midi. On a toujours essayé de montrer qu'il n'y a pas que la philosophie qui pense et qu'il y a plein de discours, de pratiques qui permettent d'éclairer les choses. Michel Schneider est un peu l'homme de la situation pour ça. Il a beaucoup de casquettes. Il est à la fois haut fonctionnaire, il a été ancien directeur de la musique et de la danse au ministère de la Culture. Il est écrivain, bien sûr. Il est psychanalyste aussi. Et dans ses essais, comme dans ses romans, qu'il parle de musique, de littérature ou de clinique freudienne, eh bien, l'amour a toujours une place très importante. Je voudrais citer parmi ses livres un essai qui s'intitulait « La confusion des sexes » chez Flammarion en 2007, également un roman consacré aux relations de Marilyn Monroe avec son dernier psychanalyste. C'est un livre qui a eu beaucoup de succès, qui est très important. « Marilyn, dernière séance », c'est paru chez Grasset en 2006. Ou encore son tout dernier livre, « Comme une ombre », qui est paru chez Grasset également, un roman qui part sur les traces d'un frère disparu et qui met au cœur de l'amour, notamment l'expérience de la trahison. Et à chaque fois, on y revient, il y a la question du récit et de l'histoire, sous la plume de Michel Schneider. L'amour est comparable à d'autres expériences, celle de la littérature, celle de du divan ou de la cure freudienne, on citait Lacan à l'instant. Je voudrais juste citer Michel Schneider sur quelques lignes. « À la fin d'une cure, comme à celle d'un roman, ce qui se sera vraiment passé, personne n'en saura rien. La psychanalyse vise à donner aux êtres qui s'y engagent un récit vivable de ce qu'ils sont et à raconter comment les choses pourraient s'être passées. Ce n'est déjà pas si mal. »
Merci. Un personnage secondaire de La recherche du temps perdu, Madame Leroy, dit « L'amour, je le fais fort souvent, mais je n'en parle jamais. » Proust, c'était le contraire. Il ne le faisait jamais, pas plus que son narrateur d'ailleurs, mais il en parle souvent, et même la recherche ne parle d'une certaine façon que de ça. De l'amour, de la fin de l'amour, et il en parle sans fin. J'ai centré mon propos sur la dernière phrase de Un amour de Swann. Dire que j'ai gâché des années de ma vie, que j'ai voulu mourir, que j'ai eu mon plus grand amour pour une femme qui ne me plaisait pas, qui n'était pas mon genre. Quitte à la connaître de façon fautive, cette dernière phrase renferme un sens véritable différent de celui qu'on lui donne. Non pas celui d'une désillusion, mais de la plus fatale des illusions, penser qu'un amour peut finir. Croire que l'on a enfin compris qui était l'autre que l'on perd. Croire qu'on l'a perdu pour de bon. En général, on se console en s'écartant de soi-même, comme Swann, en se disant « pour de mauvais ». Croire qu'on en a fini pour toujours avec l'autre, avec cette chose étrange qu'il était du temps qu'on l'aimait, cette chose qui devient sous nos yeux enfin dessillée, pas grand-chose. Croire qu'un durable amour n'est que le long et lent oubli de l'image première. Croire que le temps pourrait être perdu ou retrouvé, perdu dans l'amour et retrouvé dans l'œuvre, par exemple. Croire en ce renversement, dans l'amour, le temps serait aboli, quand on aime, on a toujours 20 ans, et que dans le désamour, il reprendrait son cours inexorable, plus de temps à perdre, avec elle, avec lui, je vais refaire ma vie. Croire que l'amour doit finir comme il a commencé, ou au contraire, à l'inverse de son commencement. Croire qu'un amour finit comme toutes les choses qui s'inscrivent dans le temps, qui naissent à un moment donné et meurent à un moment donné, ou repris. Croire qu'avec le temps, oui, tout s'en va, comme dit une belle chanson, et que le temps d'aimer, le temps de ne plus aimer, se succède comme les phases de la lune ou les saisons. C'est donc de temps perdu, gâché, qu'il s'agit dans la dernière phrase d'un amour de Swann. Tous les verbes y sont conjugués à des temps du passé, ce passé qu'on dit composé. Séparation des êtres, dans et par le temps, rencontres et retrouvailles, à la recherche de l'amour perdu, le temps de l'amour n'est pas orienté, il est circulaire, rompu, continué. Il commence par la fin et finit en recommençant. Le cadre temporel d'un amour de soi n'est d'ailleurs imprécis, aucune date n'y est citée. Les événements politiques ou artistiques donnent des repères, mais ils sont faux. L'histoire commence apparemment en 1879 par la rencontre de Swann et d'Odette au théâtre, mais ceci est contredit par leur mariage qui, si leur liaison avait duré 10 ans, aurait lieu en 1889, à un moment où le narrateur joue avec leur petite fille Gilberte aux Champs-Élysées. Le temps du roman n'est pas celui du calendrier, vectorisé, succession de jours, de mois, d'années s'écoulant. Comme dans la discordance des temps, qui est le temps de l'amour, perte, regret, rupture, recommencement se mêlent dans la phrase de Swann, qui ne marque pas un point final, une césure qui permettrait de mettre l'amour au passé. Est-ce l'amour ou le temps qui est perdu quand s'arrête le temps d'aimer ? Et quelle perte d'ailleurs ? Celle de la femme que Swann a prise pour Odette ou celle qui était vraiment Odette ? Loin que la fin d'une liaison soit la révélation de sa fausseté initiale, le constat d'une erreur sur la personne, les amours meurent comme ils naissent, dans le malentendu, et l'on ne comprend pas mieux ce qui les sépare que ce qui a uni les amants. Loin que l'on se quitte parce que l'on constate que l'autre n'était pas notre genre, c'est précisément parce qu'il n'était pas notre genre qu'on s'est attaché à lui. Ceux qui sont notre genre, s'il en existait, nous ne nous attacherions pas longtemps à eux. D'ailleurs, Swann, après cette dernière phrase, ne se sépare pas d'Odette, il l'épouse, ce que généralement on oublie, et ce qui est peut-être le seul moyen de se séparer vraiment d'un amour. Comme disait Sacha Guitry, pour se débarrasser d'une maîtresse, rien de tel que d'en faire votre femme. Mais pourquoi, pour se dire « j'ai perdu l'autre », devons-nous nous convaincre qu'on l'a perdu et qu'on a perdu son temps avec lui ? Parce que les êtres, comme les choses, ne sont que des morceaux de temps qui occupent de l'espace. Et il faut bien de temps en temps faire de la place et déménager les meubles en appelant les encombrants. Il faudrait rapprocher la dernière phrase d'un amour de Swann, en fait la dernière phrase de « Du côté de chez Swann 2 », de la dernière de « Du côté de chez Swann 3 ». Le souvenir d'une certaine image n'est que le regret d'un certain instant. Comme dans la théorie de la relativité, l'espace proustien de l'amour et tout ce qui s'y inscrit n'est qu'un aspect du temps. Dans un amour de Swann, la temporalité de la rencontre et de la séparation, des rencontres et des séparations, est celle d'un espace-temps relatif, à moins, hypothèse quantique, que ce soit le temps qui n'existe pas et que tout ne soit qu'affaire d'angle, de point de vue, d'interprétation. J'ai gâché des années. Combien ? À quoi ? À quoi perd-on son temps ? Le temps perdu est-il perdu à ne pas écrire ou à ne pas aimer ? Ou à ne pas être aimé ? Je cite Proust, « Je vis que d'elle-même, elle ne m'embrasserait pas, et je compris que tout ceci était du temps perdu, et que ce n'était qu'à partir du baiser que commenceraient les minutes calmantes et véritables. » C'est ce que le narrateur dit d'Albertine. L'amour est une rhétorique, des chiasmes l'organisent, la rencontre est une poursuite, la possession une perte. Je te suis, tu me fuis, je te fuis, tu me suis. Si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Si je ne t'aime pas, tu m'aimes. Dès 1893, Proust écrit une nouvelle qui est l'ébauche d'un amour de Swann, L'Indifférent, où précisément il cite les mots de Carmen. Dans cette nouvelle, les rôles de ceux que Platon nomme Éraste et Éromène sont inversés. Dans le rôle de celui que torture la jalousie, Swann plus tard, une femme, Madeleine de Gouvre. Dans celui de l'aimé toujours perdu, incarné ensuite par Odette, un homme, le pré, qui semble indifférent à son charme. Tous les thèmes d'un amour de Swann se trouvent déjà là. L'amour où l'on entre par la porte de la jalousie, la prison sans barreaux de l'emprise, l'être aimé, de vertu incertaine et de cupidité certaine, le temps qui efface le lien et l'idéal qui se dissout, la flétrissure des jeunes filles en fleurs, comme ces cattleyas qui ornent le corsage de l'héroïne et qui reviendront dans Swann comme emblème du plaisir, de la chair qu'on froisse, de la tentation de meurtre, de l'autre qu'on étreint. Rentrée chez elle, Madeleine, l'héroïne de l'indifférent, se regarde dans la glace, voit les cattleyas accrochés à son décolleté, comme l'image même de son amour fané avant d'être éclos. La pensée du peu qu'avait duré son rêve, je cite, « inconscient de lui-même, du peu que durerait son bonheur si jamais il se réalisait », s'associa pour elle à la tristesse de ses fleurs qui, avant de mourir, languissaient sur le cœur qu'elles avaient senti battre de son premier amour, de sa première humiliation et de son premier chagrin. Les fleurs, les orchidées surtout, sont le sexe des plantes. L'orchidée qu'est le cattleya est à la fois l'image d'un sexe féminin et d'un sexe masculin. Mais surtout, c'est l'image de cette blessure que le sexe fait à l'amour. Pourtant, Odette avait prévenu Swann. « L'amour est fragile, lui dit-elle. » Il ne voulut rien entendre et croyait que l'amour était plus fort que la mort. L'amour se fane, plus tôt que tard, il meurt, comme ces fleurs qu'on offre dans les débuts, quand l'autre entre en scène, ou qu'on dépose pieusement sur sa tombe, quand il sort de la scène, ou enfin on a cessé de se faire des scènes. Des fleurs, comme pour se dire que le temps d'aimer et le temps de mourir, ou plutôt celui du désir et celui du deuil, n'auront qu'un temps. Albertine Perdue, le narrateur, lui écrit, pour décommander la Rolls-Royce qu'il lui avait promise lorsqu'elle était sa prisonnière, et qu'elle ne mérite plus dès lors qu'elle est fugitive ou disparue. Contre-temps fâcheux, car disparue, Mademoiselle Bontemps, c'est le nom d'Albertine, Mademoiselle Bontemps, disparue, elle l'est pour longtemps, et pour de bon. Non sans lui avoir laissé sa dernière phrase à elle, « Adieu, je vous laisse le meilleur de moi-même. » Albertine réussit donc ce qu'Odette avait raté, sa sortie, et le narrateur fera ce que Swann avait manqué de faire, un livre qui lui rappellera la jeune fille en fleurs. Mort de l'amour, l'amour est-il un contretemps, une contre-mort? S'il meurt l'amour, peut-on dire, nuance que permet la langue française, qu'il se meurt? Il reviendra au narrateur, revivant la maladie d'amour de Swann, de retirer cette amère leçon. Rien ne nous confronte à l'énigme de leur être, comme la séparation amoureuse et la mort de ceux qu'on a aimés. C'est une ressemblance, dit-il, de l'amour et de la mort, plutôt que celle si vague que l'on redit toujours, de nous faire interroger plus avant, dans la peur que sa réalité se dérobe, le mystère de la personnalité. Et cette maladie qu'était l'amour de Swann avait tellement multiplié, il était si étroitement mêlé à toutes les habitudes de Swann, à tous ses actes, à sa pensée, à sa santé, à son sommeil, à sa vie même, et même à ce qu'il désirait pour après sa mort, il ne faisait tellement plus qu'un avec lui, qu'on n'aurait pas pu l'arracher de lui sans le détruire lui-même à peu près tout entier. L'aimer, c'est ça, c'est ce qu'on ne peut arracher de soi. L'autre, on ne se rend compte qu'il existait au-dehors de nous que lorsqu'il ment ou qu'il meurt, sans savoir d'ailleurs jamais qui a existé sous le nom qu'il portait. Il faut donc écrire en attendant que l'amour meure, et alors l'attente, la perte, l'oubli même, tout cessera. Proust écrit à Reynaldo Hahn à propos d'un amant en fuite, « Attendre le petit, le perdre, le retrouver, l'aimer, deux fois plus en le voyant qu'il est venu chez vous de Flavie pour me prendre, l'espérer pendant 5 ou le faire attendre 5 minutes, voilà pour moi la véritable tragédie que j'écrirai peut-être un jour et qu'en attendant je vis. » Il s'agit sans doute de la première notation de ce qui deviendra la quête douloureuse d'Odette par Swann. Mais c'est ça l'amour, il faut le vivre en attendant. Vivre sa mort qui dure longtemps. Jusqu'à ce que disparaissent les derniers morceaux de soi laissés en l'autre, les derniers morceaux de l'autre en soi. Il faut écrire l'amour et la mort de cet amour, mais ce sera pour plus tard. Et peut-être ne le pourra-t-on que si l'on a vécu et revécu un long temps. Peut-être faudra-t-il l'écrire pour se dire qu'on ne l'a pas vécu. Comme l'amour, l'écriture est faite de ratures, de corrections, de repentirs. Mais écrire est peut-être aussi une ultime revanche que l'on prend sur le fait d'avoir aimé. Swann a perdu le temps qu'il aurait pu donner à son œuvre, à l'écriture, s'il avait écrit. Il ne dit rien d'autre que cela. Non pas « j'ai gâché des années de ma vie », mais j'ai perdu mon œuvre, j'aurais mieux fait de gâcher du papier, j'aurais moins gâché mes années. Le narrateur, lui, ne perdra pas son temps et de séparation en séparation reprendra dans tout son roman le thème de la perte de l'amour. Dans Un amour de Swann, la perte d'Odette, dans À l'ombre des jeunes filles en fleurs, celle de Gilberte, dans Sodome et Gomorre, celle d'Albertine. La littérature n'est peut-être que cela, la transformation d'une image en un moment de temps, d'un souvenir en un regret. Ce que Swann s'écrit en lui-même, Proust l'écrit hors de lui. Dire que j'ai gâché des années de ma vie, dire, c'est le mot important. C'est ce verbe qui commence la phrase, et non une proposition avec un sujet, un verbe, un complément, comme « quand je pense que », etc. Dire, c'est presque un impératif. Il faut dire tout ce gâchis, ce manque, cette mutilation, cette perte. Cette perte de soi dans la peur de perdre l'autre. Dire, c'est une invitation à faire ce que le narrateur fera et ce que n'a pas fait Swann. Dire la perte, l'écrire. Prendre le temps d'écrire, le temps de l'amour et le temps de la fin de l'amour, car c'est le même. Rencontre, lien, rupture, ces phases se succèdent dans un temps qui va et vient entre le passé indéfini et l'imparfait des retours. On aimerait vectoriser l'histoire d'un amour selon le temps et la conscience, mais elle échappe dans l'inconscient qui ignore le temps. Les phrases que l'on voudrait initiales et définitives se complaisent dans les redites. De même que la rencontre fait croire que le temps est suspendu, la rupture fait croire que le temps reprend son cours. Rien n'est moins sûr, la rencontre peut être une perte et la séparation un retour. Si j'écrivais un roman d'amour sur la rencontre, il aurait comme incipit « Leur histoire a fini comme ça, un jour ils se sont rencontrés. » Ou bien, plus célinien, « Ça s'est terminé comme ça, deux points par le début. » L'amour commence par la perte, elle n'en est pas la suite, mais la naissance. Pourtant, la rencontre nous offre la chance de la chance, du désir, du désastre. La chance de perdre au bout du compte, et il ne faut pas la laisser passer. La femme de ma vie, ce sera celle que j'ai perdue dès le commencement, celle que je n'aurais pas dû rencontrer, celle que rien, en elle, en moi, n'appelait à devenir le centre et le sens de quelques années ou dizaines d'années de vie. Celle qui, à l'évidence, n'était pas mon genre, alors que tout me disait « c'est elle », parce que c'était elle. Dans la rencontre, le temps s'arrête sur une sorte d'hallucination. C'est lui, c'est elle, ce qui veut dire elle, lui, que je connais déjà sans le savoir, que je sens venir à moi dans le pur présent où se croisent deux histoires. Ce présent est une illusion, la rencontre met en présence deux passés, et pour chacun des deux amants aimantés, se joue d'abord dans une rencontre entre soi et soi-même. C'est l'enfant qui reviennent vers moi dans la répétition d'un passé inconscient. Mais pris dans cette illusion d'un éternel présent, nous ne voulons rien savoir, ni de ce passé, ni de ce futur incertain. Loin d'être le présent instantané que l'on croit, le temps de la rencontre est le futur antérieur. J'aurais perdu l'autre avant même de l'avoir rencontré. Pris dans cette illusion d'un éternel présent, nous ne voulons rien savoir. Rien savoir de ce que le temps a pris ce corps, hier plaisant, et l'a plongé dans l'ennui, l'habitude, la laideur, l'a ravi dans la trahison et la jalousie. Mais à l'inverse, quand on croit en voir la fin, un amour ne fait souvent que reprendre souffle et vie, comme certains agonisants. Le temps de la séparation n'est pas moins emmêlé, pas plus chronologique et logique que celui de la rencontre, ou que celui, fluctuant, du cours d'une histoire d'amour. Un futur antérieur, là encore. L'image de l'autre, ses intermittences, ses retours, sa permanence, c'est de cela qu'il s'agit. Un amour n'est qu'une suite de séparations. Si j'écrivais donc un roman sur la vie amoureuse, l'incipit, toujours sélinien, pourrait être « Ça a continué comme ça, de suite en fin, de commencement en recommencement. » Comme cette phrase qui commence et se termine par « ça ». Dans tous les couples, il y a « ça » dès le début. « Ça » dont on ne peut pas parler, dont on ne parlera jamais, la fin. Ça s'appelle la rupture, la déception, le largage, l'invivable. Mais ça arrive, on ne s'y attend pas, on l'attend. On se demande sans fin qui a quitté qui. On s'accuse comme des enfants dans la cour de récréation, c'est toi qui as commencé. Et puis un jour ou l'autre vient d'un coup, en apparence instantanée et symétrique de la sidération du coup de foudre, le coup de cendre de la désidération. Là encore, tout est affaire d'image et de temps. Instantané, c'est le mot qu'on emploie pour ces photos qu'on prend dans les débuts d'une liaison, et puis qu'on retrouve des mois ou des années après, au hasard d'une boîte ou d'un fichier numérisé. Quand on les regarde, on se dit, non plus, c'est elle, c'est lui, comme dans le coup de foudre, mais pas possible, ce n'est pas elle, ce n'est pas lui que j'ai aimé. Je ne me reconnais pas et je ne la reconnais pas dans la personne qui a partagé un bout de ma vie et en est sortie sans que je le sache. Quand du regard il rencontrait sur sa table la photographie d'Odette, ou quand elle venait le voir, il avait peine à identifier la figure de Cher ou de Bristol avec le trouble douloureux et constant qui habitait en lui. Il se disait presque avec étonnement, c'est elle ? Comme si tout d'un coup on nous montrait, extériorisée devant nous, une de nos maladies, et que nous ne la trouvions pas ressemblante à ce que nous souffrons. Elle, il essayait de se demander ce que c'était. En réalité, cela fait longtemps qu'Odette n'est plus le genre de Swann quand il écrit le dernier paragraphe de son amour. Depuis le premier soir au théâtre, elle lui est apparue, non pas sans beauté, mais d'un genre de beauté qui lui était indifférent, qui ne lui inspirait aucun désir, qui lui causait même une sorte de répulsion physique. De ces femmes, écrit Proust, de ces femmes comme tout le monde à les siennes, différentes pour chacun, qui sont l'opposé du type que nos sens réclament. Pour lui plaire, elle avait un profil trop accusé, la peau trop fragile, les pommettes trop saillantes, les traits trop tirés. Trop de trop, dès le début. Dès le début, nous savons que cet autre qui sera l'être aimé l'est malgré soi et malgré lui. C'est précisément cela, ce trop, ce défaut, ce trouble qui nous attache à lui. Avec le temps, le dégoût ne fait que s'accentuer. Cela fait longtemps que Swann a constaté qu'Odette a commencé à s'épaissir. Quand il cherchait à mesurer l'étendue de son amour, il lui arrivait parfois qu'il sembla diminuer, presque réduit à rien. Par exemple, le peu de goût, presque le dégoût que lui avait inspiré avant qu'il l'aimât Odette, ses traits expressifs, son teint sans fraîcheur, lui revenait à certains jours. Et quand enfin il constate que, comme on dit en chirurgie, je le cite, son amour n'était plus opérable, ce n'est pas une révélation, la mort a débuté bien avant que la maladie ne se déclare. Poursuivant mon roman sur les séparations, j'essaierai de montrer que loin d'être une série de catastrophes inattendues, elles surviennent bien avant et attendent leur heure sans qu'on sache qu'elle a déjà sonné. Les deux corps le savent, parfois l'un avant l'autre. Ils savent ce que les âmes accordées ne savent pas encore. Un jour, les yeux ont évité les yeux, les mains se sont lassées de se prendre. L'ennui s'est vu soudain comme les yeux au milieu du visage. Les lèvres rentrées dans la bouche ne montraient plus qu'un vague dégoût et ne découvraient plus les dents en ces moments étranges où hier encore le baiser se faisait morsure. » Les peaux ne s'éveilleront plus l'une à l'autre. Le moment de conclure est venu et le temps n'attend plus que l'incident banal, le mot de travers, pour donner le signal du départ. La parole empêchée devient silence de chair ou bavardage de compagnie. Mon roman se poursuivrait sur un mode inversé, et après la description clinique de ce qu'il y a de non-amour dans les commencements, il proclamerait l'amour des recommencements et déclarerait « femme de ma vie, la mienne ou celle de mon héros, celle qui restera ma vie quand la vie nous aura séparés. » Mon excipit, je ne sais pas si on peut désigner ainsi la dernière phrase d'un roman, serait « ça a débuté comme ça, en recommençant. » De rupture en recollage, les séparations et leurs scènes sont de si exquises douleurs qu'on aime parfois à en retrouver la pointe. Et de « encore veux-tu, en jamais plus, va voir ailleurs si je n'y suis pas », je raconterai comment se retrouvent face à face deux êtres prêts à en découdre ou à se recoudre dans le « amour toujours ». S'ensuivrait le récit des reprises, comme on dit en couture, ou comme on dit aussi dans les combats de boxe, ou enfin dans les répétitions de phrases musicales dans une partition. De reprise en reprise, j'imaginerai un roman savamment construit selon un montage en voix alternées. Il pourrait avoir pour titre « Les séparations impossibles » ou « interminables » ou, plus proustien, « intermittentes ». Celle entre Odette et Swann, puis celle entre le narrateur et Albertine formerait un sujet dans ce contrepoint de retrouvailles et de repères d'ail. L'autre histoire, le contre-sujet de ma fugue, serait celle d'un couple bien moderne, bien liquide, bien virtuel, que seule la mort séparerait finalement après d'innombrables tentatives de rupture à la petite semaine. Mais sans doute, incapable de finir cette infinissable rêverie sur la fin des amours, écrasé au bout de quelques pages par la comparaison entre l'écriture proustienne des séparations et mon histoire de retour de flamme ou de femme, j'abandonnerai toute idée d'en faire un roman, de faire un roman de ce mélange de chagrin et de haine, de perte et d'oubli qu'on appelle une séparation, et je ressasserai sans fin le commencement d'un roman d'amour dont je n'aurais écrit que le titre, de point, amour, ouvrez la parenthèse, suite et fin, suite au singulier, fin au pluriel. Je vous remercie.
La question s'adresse particulièrement à M. Schneider. J'étais frappé dans son exposé, dans son récit de quelque chose qui pourrait ne pas advenir dans cette histoire d'amour, en tout cas d'un désaccord ou d'une différence qui serait à l'origine d'un désaccord futur. C'est-à-dire que ça m'a frappé, ça. Bon, c'est juste une impression que je voulais savoir ce que vous en pensiez.
Si j'interprète bien, c'est la question, c'est la part du malentendu ou de l'incompréhension dans le nouage d'un couple, sa durée et sa fin. Moi, je pense que le malentendu est fondamental et que si on s'entendait bien entre les hommes et les femmes ou entre les gens qui s'aiment, on n'aurait pas besoin de l'autre. Hein. C'est précisément parce qu'on ne s'entend pas qu'on se rapproche et qu'on a l'attrait qu'on a pour le sexe, l'être d'une autre personne. La phrase qui a été citée par Camille Laurence, parce que c'était lui, parce que c'était moi, je pense que dans l'amour, on ne s'attache à l'autre que parce que ce n'était pas lui et pas moi au moment où ça s'est passé. Il n'y a pas de transparence, heureusement. L'amour chez les humains ne peut pas être totalement heureux, il arrive qu'il le soit, hein. Comme dit le poème d'Aragon, il n'y a pas d'amour heureux, mais c'est notre amour à tous les deux. Bon. Il arrive qu'il le soit, il y a des moments d'amour heureux, mais il ne peut pas être définitivement, complètement et en permanence heureux parce que nous sommes des êtres parlants. Alors chez les animaux, effectivement, l'amour peut être heureux au sens de la congruence des désirs, ou des désirs, je ne sais pas s'ils ont des désirs, est-ce qu'on peut avoir des désirs quand on ne parle pas, mais en tout cas, des pulsions de reproduction, l'amour le sexe est lié à la reproduction, chez l'homme, il est complètement décalé de la reproduction. D'où, effectivement, comme disait un interlocuteur, c'est difficile. Ben oui, c'est difficile d'aimer. Ben, c'est ça aussi qui en fait la valeur, le prix et parfois la joie. Mais c'est parce que nous sommes des êtres parlants, voilà, et pas des animaux guidés par leurs hormones, ou pas seulement. Heureusement.
D'autres interventions ? Question. Merci.
Oui. Bonjour, Madame Angot. Donc, parce que vous aimez la littérature, vous avez manqué l'amour de l'autre qui existerait. Donc, du coup, vous aimez l'autre qui n'existe pas. Mais alors, puisque votre affaire, c'est la littérature, moi, ce qui me surprend, c'est que, comme toute passion, effectivement, cela peut nous éloigner de la rencontre de l'autre. Je ne vois pas ce que la littérature a de spécifique dans cette histoire. Et du coup, je me demandais si, en réalité, votre histoire d'amour littéraire n'était pas quand même assez narcissique.
Alors, je vais reprendre donc par rapport à... Déjà, je vais rétablir une petite chose qui n'a pas été très bien comprise, ce qui est normal vu qu'on lit ce texte comme ça assez rapidement. Et voilà, donc ça s'inscrit pas. Ce n'est pas le temps de la lecture pour vous, c'est le temps de le dire pour nous. Donc, l'autre qui n'existe pas, quand j'ai parlé de l'autre, de celui qui n'existe pas, je ne parlais évidemment pas de l'être humain qui n'existe pas. L'être humain existe bel et bien. L'amour, quand j'ai parlé de l'amour qui n'existe pas, j'ai parlé de la littérature qui est un être qui n'existe pas, que moi je vis comme un être qui n'existe pas, et que même si et que cet être qui n'existe pas dirige ma vie. Voilà ce que j'ai dit. Je n'ai pas dit que j'avais manqué l'amour d'un être humain, j'ai dit que j'avais eu peur à cause de cet amour que je ressens et que je ressens depuis un certain temps pour un être qui n'existe pas, que cette passion m'a fait courir le risque d'être privée d'amour. Non pas parce que moi, je ne ressentais pas d'amour pour un être humain, mais parce que c'est quand même une autre question de rencontrer un être humain qui va vous laisser, à côté de lui, aimer un être qui n'existe pas et qui s'appelle la littérature. Donc sur la question du narcissisme, c'est évidemment l'inverse. L'inverse, ça veut dire que vous êtes prêt, dans le cas de ce que je racontais là, à ne plus exister soi-même, ne plus être aimé soi-même en tant qu'on est soi, justement, hein, parce qu'on aime autre chose. Et en plus, on n'a même pas le confort de se dire que cette autre chose qu'on aime, c'est un être humain qui va pouvoir vous renvoyer des choses à vous-même, mais c'est quelqu'un qui n'existe pas, qui se fout complètement de vous. La littérature se fiche complètement de moi. Complètement. C'est pas très narcissique, je trouve.
C'était le forum Le Monde, Le Mans, avec aujourd'hui Christine Angot, écrivaine, Camille Laurence, écrivaine, Michel Schneider, écrivain et psychanalyste. Débat animé par Jean Birnbaum. Prise de son, Frédéric Quérou. Réalisation, Isabelle Huel. La semaine prochaine, il sera question des exercices de l'amour, désir de vérité, avec Catherine Malabou, philosophe, Belinda Cannon, écrivaine et essayiste, et Laure Adler, écrivaine et journaliste.